Chapitre 4. Monsieur et Madame du roi de Cantel. 2 mois sont passés. Madeleine Forestier n'est pas revenue de Cannes. Vers le milieu du mois d'avril, du roi reçoit une lettre d'elle. Elle est à Paris et elle lui demande de venir la voir. Elle l'accueille avec un sourire aimable et le remercie d'être venu à Cannes pour la soutenir. Elle veut connaître les dernières nouvelles. Elle est très triste parce qu'elle ne pourra plus écrire des articles pour le journal après la mort de Charles. « Et pourquoi vous ne reprendriez pas ce métier sous le nom de Duroy ?» lui propose Georges. « Ne parlons pas de ça pour le moment, c'est encore tôt, » lui répond Madeleine d'une voix douce. L'été se termine et l'automne arrive. Personne ne s'est rendu compte de leur relation. Un soir, Madeleine lui annonce qu'elle accepte son offre de mariage. Ils pourront se marier le 10 mai, le jour de son anniversaire. Puis elle ajoute « J'ai pensé à quelque chose, mais c'est assez difficile à expliquer. Eh bien, je suis comme toutes les femmes, j'aime ce qui brille. Est-ce que vous ne pourriez pas, à l'occasion de notre mariage, modifier votre nom pour le rendre plus noble ? Vous pouvez séparer votre nom en deux, comme ceci, du roi. Vous pouvez ajouter à votre nom de famille le nom de votre pays, Cantel, ajoute Madeleine. Madame du roi de Cantel, c'est excellent. Tout cela me plaît bien, déclare du roi gravement. Vous allez dès demain signer vos chroniques dès de Cantel et vos échos simplement du roi. Ça se fait dans la presse, personne ne s'en étonnera. Avec un peu de méthode, on arrive à réussir tout ce qu'on veut. Une fois rentré chez lui, il écrit une lettre à Madame de Marelle pour lui proposer un rendez-vous chez lui. Puis il rédige un article sur les impôts pour le journal. Et il signe « D. de Cantel ». Le lendemain, quand il entend le coup de sonnette à la porte de son appartement meublé, son cœur se met à battre très fort. Comment va-t-il s'y prendre avec Clotilde ? « Assieds-toi. Nous allons parler de choses sérieuses, » lui dit Duroy. « Clotilde, je t'aime beaucoup. Je t'aime vraiment du fond du cœur. Tu n'imagines pas combien je souffre de devoir t'annoncer cette nouvelle. Clot, je vais me marier. » Madame de Marelle reste silencieuse, le souffle coupé, incapable de prononcer le moindre mot. « Clot, essaie de te mettre à ma place, je t'en prie. Je n'ai ni situation ni argent. Je suis seul, perdu dans Paris. Il me faut une personne qui me conseille. C'est une associée, une alliée que j'ai cherchée et que j'ai trouvée. Clot, ma petite Clot, comprends-moi. Tu es une femme mariée. Qu'est-ce que je peux faire ? Réfléchis, mets-toi à ma place, lui dit Duroy d'une voix douce. 2 larmes tombent sur les joues de sa maîtresse. 2 autres se forment déjà au bord des paupières. « Oh, ne pleure pas, Clot, je t'en supplie. Tu me fais de la peine. »«
Qui est-ce ? »
demande Madame de Marelle d'une voix faible. « Madeleine Forestier, » hésite Duroy. Madame de Marelle tremble de tout son corps. Aucun mot ne sort de sa bouche. Elle se lève pour partir. Il essaye de la retenir. Elle se dégage d'un geste en arrière et s'en va. Resté seul, Duroy se sent vide, sans énergie pendant quelques instants. Puis il pense à sa nouvelle vie. Alors, il retrouve son énergie et sa joie de vivre. Le 10 mai arrive. Comme Madeleine l'a décidé, le mariage se fait en secret en présence des seuls témoins. Tout a été prévu avant la signature du contrat. Ils vivront dans l'appartement qu'elle habitait avec son premier mari. Duroy héritera des fonctions et du salaire de forestier à la vie française. Après un court passage à la mairie, les mariés rentrent pour fermer leurs valises. Ils prennent le train de 6h du soir, direction la Normandie. Madeleine veut rencontrer les parents de Duroy à Cantleux. Lorsqu'ils arrivent devant le café de ses parents, Duroy est un peu inquiet. « Il se demande comment la visite allait se passer. Son père se présente en premier. Son regard semble dire
« Tu as du goût, mon fils ».
Celui de sa mère semble dire « Je ne t'aimerai jamais ». À table, le père de Dieuroy raconte des histoires malpropres et boit beaucoup. La mère a une mine sévère et observe discrètement sa belle-fille sans dire un mot. Madeleine ne parle pas, ne mange pas. Elle est déçue. Elle garde un sourire triste figé sur les lèvres. Le soir, Dieuroy dit à sa femme « Si tu veux, nous repartirons demain. Je t'ai pourtant prévenu, » poursuit-il en riant.
« Oui, je veux bien repartir, » murmure Madeleine. « Tes parents sont de braves gens. Je leur enverrai des cadeaux de Paris. »
Dieuroy de Cantel. Tu verras, personne ne s'étonnera de nos lettres de faire part. Nous raconterons que nous avons passé 8 jours dans la propriété de tes parents. Le lendemain, Dieuroy laisse à ses parents 200 francs en cadeau. Rentré à Paris, Dieuroy reprend son ancien travail au service des Échos. Le poste de forestier ne lui a pas encore été proposé. Un soir, il achète un bouquet de roses parfumées pour Madeleine. Le cœur joyeux, il remonte chez lui. Lorsqu'il traverse la salle à manger, un coup de sonnerie retentit. Le comte de Vaudrec entre, tranquille, très à l'aise, comme chez lui. Madeleine les laisse ensemble pour jeter un coup d'œil à la cuisine. Le dîner est intime et cordial. Les deux hommes ont les mêmes opinions sur tout. Une amitié naît entre eux. Après le départ de Vaudrec, Madeleine dit à son mari
« Il est parfait, cet homme. C'est un bon ami, sûr et fidèle. Ah, sans lui.
Georges, on m'a apporté des nouvelles graves du Maroc. C'est La Roche-Mathieu, le député et futur ministre des Affaires étrangères, qui me les a données. Nous allons nous mettre au travail immédiatement. »
Le couple passe dans le cabinet de travail. Madeleine raconte les nouvelles. Puis elle expose ses idées et le plan de l'article. Dieuroy l'écoute avec attention et prend des notes. Quand elle a terminé, il reprend la question. Il développe et agrandit le plan de l'article. Il imagine déjà un plan de campagne contre le ministère actuel.
Madeleine est impressionnée et suit la pensée de Dieuroy avec attention.
Quand leur article est terminé, Georges le relit tout haut. Il le juge admirable tous les deux. Il se sourit, enchanté et surpris. L'article paraît sous la signature de Georges Dieuroy de Cantel. Il fait un grand bruit. Walter le félicite et le charge de la rédaction politique de La Vie française. Dieuroy prend définitivement les fonctions de forestier. Les deux époux commencent une campagne habile et violente contre le ministère des Affaires étrangères. Dieuroy devient célèbre dans les groupes politiques. Quant à Madeleine, elle surprend son mari par l'ingéniosité de son esprit, la précision de ses informations et le nombre de ses connaissances. Le député La Roche-Mathieu dîne maintenant tous les mardis, après le comte de Vaudrec, chez les Dieuroy. Pour le député, le nouveau mari de Madeleine continue le travail commencé par Forestier. La Légion d'honneur promise à l'ancien mari ira sur la poitrine du nouveau. Rien n'est changé. D'ailleurs, il n'est pas le seul à penser de cette façon. Au journal, les confrères de Dieuroy l'appellent Forestier. Même chez lui, il voit la main de Charles posée sur chacun des objets de l'appartement. Il imagine la main de Charles posée sur Madeleine. Le travail lent de la jalousie le fait souffrir. Un soir, vers la fin de juin, il demande à sa femme « Dis donc, Mad, as-tu trompé ce pauvre Charles ?» Madeleine se tait. Mais Georges insiste. Petit à petit, Madeleine trouve drôle cette insistance, car elle rit par petits rires brefs. « Mais tu es stupide. Est-ce qu'on répond à des questions pareilles ?» déclare-t-elle d'un ton joyeux. Un frisson court sur la peau de son mari. Elle a dit cela d'une étrange façon. Il se demande s'il s'agissait d'un aveu.
Cette pensée le rend fou de colère. Il a envie de battre sa femme, de lui arracher les cheveux. Mais il reste immobile, les bras croisés, l'esprit trop agité. Il sent la colère grossir en lui. Il est jaloux. Jaloux pour le mort, jaloux pour Charles. Et un sentiment de haine contre Madeleine entre soudain dans son cœur. Puisqu'elle a trompé l'autre, il ne pourra plus jamais avoir confiance en elle. Puis, peu à peu, son esprit se calme. Il pense, les femmes, il faut s'en servir et ne rien leur donner de soi. L'ambition et la fortune sont au fort. Il faut être au-dessus de tout. Le lendemain au journal, Duroy va directement dans la salle de rédaction. Il veut en finir avec ses confrères qui l'appellent Forestier. Il menace de les provoquer en duel s'ils n'arrêtaient pas immédiatement cette blague. Il sort pour faire des courses, puis revient une heure plus tard. Personne ne l'appelle plus Forestier. De retour chez lui le soir, il entend dans le salon les voix de Madame Walter et de Madame de Marelle. Clotilde était debout au coin de la cheminée et Madame Walter était assise, entourée de ses deux filles. Madame Walter parle d'un gala organisé chez Rival, le confrère chroniqueur et duelliste à la vie française. Georges s'offre pour les conduire, elle et ses filles, en l'absence de Monsieur Walter. La plus jeune des demoiselles Walter attire son regard. Il pense, elle n'est pas mal cette petite Suzanne, mais pas du tout. Les invités se lèvent pour partir. Madame de Marelle serre très fort et très longtemps la main de Georges. Il se sent troublé par cet aveu d'amour silencieux. Après leur départ, Madeleine se met à rire, d'un rire franc et gai. Elle lui raconte que Madame Walter a parlé de lui avec un enthousiasme fou. Elle voudrait trouver pour ses filles deux maris comme lui. « Tu sais, Madame Walter est une femme inattaquable. Son mari, tu le connais. Mais elle, c'est autre chose. C'est une honnête femme, » dit Madeleine avec une conviction sûre de son jugement. Jeudi arrive. Madeleine ne veut pas l'accompagner au gala. Elle s'ennuie dans ce genre de fête. Et puis, elle doit aller à la Chambre des députés. Comme convenu, Georges passe chez Madame Walter. La patronne l'attendait. Georges la trouve vraiment désirable dans sa robe claire un peu décolletée. Sa fille Suzanne, tout en rose, semble ravissante elle aussi. Jacques Rival reçoit les invités à l'entrée de sa maison. Un grand buffet a été installé dans le jardin. Il fait chaud dans la grande salle. La poitrine de Madame Walter se soulève à chaque souffle. De temps en temps, l'œil de Georges rencontre le regard de la patronne. Un regard trouble et fuyant. À la fin de la fête, il reconduit la famille Walter à la sortie. Assis en face de la patronne dans le fiacre, Georges rencontre encore une fois son œil caressant et fuyant. Il sourit et se dit « J'ai vraiment de la chance avec les femmes. Je crois que celle-ci aussi a mordu à l'hameçon. » De retour chez lui, il trouve Madeleine dans le salon. Elle l'attend avec impatience pour lui annoncer les dernières nouvelles. Elle le charge de porter une invitation à dîner au Walter. Le lendemain, il se présente boulevard Malesherbes dès 2 heures. Madame Walter l'accueille chaleureusement. « Quel bon vent vous amène » demande-t-elle. « Le désir de vous voir. Une force m'a poussé chez vous, je ne sais pas pourquoi. Pardonnez-moi mon explication franche, » dit Georges d'un ton doux, avec un accent sérieux dans la voix. « Mais, vraiment ? Je ne comprends pas. « Vous me surprenez, » répond Madame Walter un peu rouge. « C'est une déclaration d'amour. Je voulais vous la faire depuis longtemps, mais je n'osais pas. Depuis hier, je ne pense qu'à vous. « Voyons, assez d'enfantillage, et parlons d'autre chose, » balbutie Madame Walter, devenue pâle tout à coup. Il tombe à ses genoux, lui entoure la taille et répète d'une voix passionnée, « Je vous aime, d'un amour fou, depuis longtemps. Ne me répondez pas. « Que voulez-vous? Je suis fou, je vous aime !» Elle a du mal à respirer, essaie de parler et ne peut prononcer un mot. Elle le repousse de ses deux mains. Elle le saisit aux cheveux pour l'empêcher de l'embrasser. Il la touche à travers sa robe. Elle s'affaiblit sous cette caresse brutale et forte. Il se relève pour la prendre dans ses bras. Mais elle s'échappe et court de fauteuil en fauteuil. Il se laisse tomber sur une chaise. Le visage dans ses mains, il fait semblant de pleurer. Puis il se redresse et crie « Adieu ! Adieu !» avant de s'enfuir.
Mardi soir arrive. Duroy attend à l'entrée de l'appartement un peu inquiet. Madame Walter est venue sans son époux. Elle paraît très calme, un peu froide, un peu hautaine. Il se fait très humble, très discret, soumis. Après le dîner, Madame Walter veut rentrer de bonne heure. Duroy propose de l'accompagner. Elle refuse, mais il insiste. En voiture, il lui saisit la main et y dépose un baiser passionné. Il se met à genoux et lui dit qu'il ne peut plus vivre sans elle. Il veut la décider à lui donner un rendez-vous. « Je vous attendrai demain devant votre porte, comme un pauvre. Si vous ne descendez pas, je monterai chez vous. Je vous dirai « Je vous aime !» et je m'en irai. » insiste Duroy. Elle hésite, troublée. Et comme la voiture passe la porte de sa maison, elle murmure très vite « Non, ne venez pas chez moi. J'entrerai à l'église de la Trinité demain à 3h30. »